Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Jusqu'au milieu du XXe siècle, durant les mois d'été, bergers et troupeaux parcouraient à pied des centaines de kilomètres dans les Alpes du Sud. Ils fuyaient la chaleur des plaines pour la fraîcheur des alpages. La transhumance, cette culture ancestrale, a depuis peu retrouvé sa mémoire grâce aux chercheurs et aux historiens, grâce aux précieuses archives et donc aux témoignages conservés depuis des siècles. Et aujourd'hui, dans un revival transhumant, des marcheurs empruntent la route en hommage justement aux moutons et aux bergers qui accomplissaient cette longue migration de 500 kilomètres. Mon invité ce matin à partager cette expérience, ce marcheur plus connu en tant qu'historien et théoricien du cinéma nous livre son carnet de route dans un livre simplement intitulé « Ma transhumance » édité par Artaud. Bonjour Antoine Debecq, l'auteur, le marcheur, c'est vous?
Oui, c'est vrai, c'est moi.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Marcher derrière les moutons, sentir leur odeur, vivre avec eux, côtoyer les bergers et leurs chiens, arpenter la montagne, tout cela s'ancre pour moi dans les souvenirs et les rêves de l'adolescence. Mais vous n'êtes pas si vieux que ça, ça existait à l'époque de votre jeunesse, la transhumance, comme on le faisait à l'époque, pendant des siècles?
Je voyais, il y a toujours des bergers, il y a toujours des troupeaux, il y a toujours des chiens de berger, il y a toujours toute cette culture pastorale, elle existe encore. Alors, ce qui n'existe plus depuis, mettons, une soixantaine d'années, donc c'est vrai que je ne l'ai pas connu, c'est la transhumance massive, au sens tous ces troupeaux, parfois donc 50 000, 60 000 bêtes à la suite, en compagnie de 1000 têtes, comme ça, s'engouffraient dans cette marche de 3 semaines, partaient des plaines de Provence, notamment la Croix, la grande plaine de la Croix, pour monter aux alpages. Donc, moi, ce que j'ai vu quand j'étais adolescent, dans le Vercors, puisque c'était la montagne qui était mienne à ce moment-là, qui est une terre de pastoralisme, c'est les bergers à la manœuvre, c'est quelque chose de très beau, c'est-à-dire voilà, sous le Grand Vémont, par exemple, qui est le plus haut sommet du Vercors, il y a des grands alpages, et là, on voit le berger qui lance ses chiens, qui dirige le troupeau, et tout ça, je l'ai vécu comme dans un rêve, comme dans une sorte de fantasme, de destinée future, un peu, je dirais, à la Giono, quoi. Mmh. Alors là, le Giono aussi, je l'ai beaucoup lu à ce moment-là.
Et beaucoup cité.
Beaucoup cité dans le livre
Ma Transhumance,
de tout ça, oui.
Alors, Ma Transhumance, qui sort donc chez Artaud, n'est pas votre premier livre de marcheur. Antoine Debecq, vous avez déjà publié chez Gallimard en 2014 « Traversée des Alpes » avec le sous-titre « Essai d'histoire marchée ». C'était pour raconter une traversée de col en col de 27 jours accomplie il y a maintenant 10 ans, bah oui, sur les traces, cette fois-ci d'une grande figure de la randonnée, c'est-à-dire Roger Beaumont et d'autres pionniers de la marche. Est-ce que c'est le même circuit que celui que vous prenez là pour Ma Transhumance?
Alors non, la traversée des Alpes, c'est donc une sorte de traversée nord-sud des Alpes, depuis le lac Léman jusqu'à Nice. Mais quand on regarde cette traversée nord-sud, évidemment, sur un petit tronçon, disons, aujourd'hui, ça doit faire un jour et demi, 2 jours de marche, à un moment, et donc d'ailleurs dans la traversée des Alpes, j'y consacre un chapitre, on croise l'arrivée de ce qui s'appelle la Drei ou la Route de la transhumance. Donc c'est vrai que cette transhumance, en tout cas, cette culture des bergers, tout ça, c'est à la fois quelque chose qui remonte à mon enfance, et puis c'est quelque chose que j'ai redécouvert quand j'ai marché pendant quelques jours sur ces drails, qui sont des chemins très particuliers. Les moutons ne marchent pas comme les hommes, les moutons marchent droit dans la pente, alors que nous, on préfère les zigzags. Et donc il y a des traces qui sont vraiment spécifiques dans certains cols comme ça, où on voit vraiment le sentier, la piste, puisque souvent c'est une piste qui fait 3, 4 mètres de large, 5 mètres de large, des moutons, du passage des troupeaux. Donc ça, je l'avais repéré, j'avais évidemment été confronté à quelques troupeaux, et aujourd'hui, ça veut dire à ce qu'on appelle des patous, c'est-à-dire des chiens de garde, qui sont des molosses, et qui sont généralement assez agressifs, c'est ce qu'on leur demande d'être, hein, pour voilà, pour lutter contre les loups. Et donc ça, je l'avais repéré. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans cet autre chemin, hein, donc qui traverse les Alpes à peu près au même endroit, mais dans une diagonale, quoi, une oblique, hein, une oblique qui remonte comme ça vers le nord depuis la Provence.
Alors c'est vraiment un carnet de route parce que on vous voit au jour le jour en train de marcher sur exactement le même tracé. Et c'est aussi un livre d'historien, vous êtes historien, hein, et pas seulement de cinéma, et donc vous parlez de toutes les recherches, de toutes les archives qui parlent de cette culture ancestrale préservée depuis le 12e, 13e siècle, avec son patrimoine de chansons, de récits, de dessins, de gravures, de tableaux. On apprend que les cloches au cou des bestiaux, ça vient quand même de là. Mais aujourd'hui, cette culture, et on l'apprend à travers votre livre, Antoine de Bec, eh ben elle survit avec 100 000 bêtes, 150 éleveurs.
Absolument. Dans la Croix, il y a toujours 100 000 bêtes et 150 éleveurs. Oui.
Alors, pourquoi elle survit ? Parce qu'aujourd'hui, on peut éviter de cette transhumance pour faire vivre les bêtes de 36 000 manières.
Ah non,
sont
non,
pas
non, non. On ne peut pas éviter de mettre les bêtes. La Croix, l'été, c'est la plus grande steppe d'Europe et l'été, c'est vraiment un désert. C'est un four. On ne peut pas laisser des troupeaux de 100 000 bêtes dans la Croix. Donc, il faut forcément les mettre dans un autre endroit, et quel est le meilleur endroit que de les mettre au frais avec une herbe toute verte, délicieuse, pleine de sève et d'humidité, des fleurs, voilà, c'est les alpages. Donc les deux lieux, je dirais ancestraux, sont restés absolument les mêmes, avec une culture qui est restée à peu près la même, même si elle a évolué.
Alors qu'est-ce qu'on a perdu?
Ce qu'on a perdu, c'est le chemin, c'est la transhumance, c'est ce que Giono appelle le serpent d'étoiles. Voilà, les moutons qui en troupeau comme ça, en compagnie, montent pendant 3 semaines. Tout ça, c'est perdu aujourd'hui. Les bêtes montent en 4 heures en bétaillère. Voilà, elles sont chargées autour de la mi-juin, par exemple dans la Croix, et puis elles se retrouvent 4 heures plus tard au col du Rousset. Au pied du Vercors.
Donc du coup, vous étiez bien seul à emprunter ces chemins?
Oui et non, c'est-à-dire que effectivement, c'était un chemin qui montre une évolution de la marche, c'est-à-dire que la terre de Provence, par exemple, et de Haute-Provence, mais surtout de Provence, qui a été donc avec cette tradition pastorale une terre de marche, une terre de transhumance. Aujourd'hui, la marche y est totalement, je dirais pas exclue, mais très difficile, parce que voilà, tout s'est clôturé, il y a la propriété privée, il y a le goudron qui s'est mis un peu partout, il y a un tourisme évidemment très 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 dense, et donc tous ces chemins qui existaient autrefois et qui se réunissaient comme ça en une drive principale pour suivre la durance, eh bien aujourd'hui de tout cela, il ne subsiste que quasiment rien, sauf que il y a un mouvement et que je voulais accompagner, et dont j'admire même la ténacité, hein. C'est une association qui s'appelle Maison de la Transhumance, la Routo, qui a depuis une dizaine d'années, d'abord au cadastre, on repère le vieux chemin, hein, qui a disparu dans les années 50-60, donc qui a été depuis recouvert par beaucoup de choses, et puis on retrace cette ligne de la draille ancienne, et puis il faut aller négocier au cas par cas le passage pour le transformer, ce chemin, cette draille de transhumance, bientôt, normalement c'est l'année prochaine que ça se passe, en GR, en sentier de grande randonnée, ce sera le GR69. Donc tout ça aussi, je voulais le raconter, c'est-à-dire c'est à la fois une histoire très ancienne, hein, séculaire, comme ça, dont il reste des traces, comme les fontaines, comme les boris, comme quelques bergeries du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et puis, c'est une histoire qui n'est pas finie, au sens où on retrouve aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un revival. Alors un revival qui passe par la marche, par la randonnée, donc la constitution, le balisage d'un chemin que j'ai fait en quelque sorte en avant-première, en éclaireur. Et puis C'est une culture qui reste vivante parce que le métier de berger a beaucoup évolué. Et ça, c'était aussi quelque chose que je voulais raconter à travers un certain nombre de rencontres.
Ouais.
Rencontrer des bergers.
Notamment un couple de bergers que vous rencontrez, Antoine Debecq. Et c'est vrai que c'est passionnant de les voir aujourd'hui, de nos jours, faisant ce métier de berger. À un certain moment, vous dites que votre livre, ce carnet de routeaux, c'est un peu la carte et le territoire de Houellebecq, mais adapté un peu à votre sensibilité. C'est-à-dire que
oui, alors je n'irai pas jusqu'à me prendre pour Houellebecq, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai voulu dessiner quelque chose qui a à voir avec un pays disparu.
Ah oui, c'est convoquer l'histoire dans une géographie
absolument,
précise.
Et une géographie qui est en train de renaître, en fait. Alors, elle renaît parce que, voilà, un certain nombre de gens veulent marcher sur ces chemins. Et elle renaît parce que, oui, ce métier de berger, il a beaucoup évolué. Et d'abord, aujourd'hui, les bergers sont plus du tout ce qu'on pourrait appeler les idiots de la famille, si vous voulez.
Et les alcooliques d'antan.
Il y a quelque chose qui s'est gardé. Hein, c'est un métier qui reste à la marge et revendique cette marginalité. Mais en même temps, c'est un métier aujourd'hui qui est fait par des gens qui sont très formés. C'est assez étonnant. Souvent, c'est le métier de la deuxième chance. C'est-à-dire que ce sont des gens, souvent des urbains, des jeunes de la ville qui ont fait des études, parfois assez poussées, mais qui sont pas trouvées forcément dans ces études ou dans leur première vie, dans leur première aspiration. Ils ont été déçus et ils repartent à la campagne, dans un autre métier, celui de berger. Il y a une école qui les forme, hein, dans la Croix, ça s'appelle l'école du Merle. En 2 ans, on est formé comme berger. Et voilà, ils partent sur une deuxième vie. Et beaucoup sont comme ça. Et ça, la sociologie des bergers a beaucoup changé. Aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose de très étonnant. Hein, la moitié des bergers sont des bergères. Donc voilà, c'est le métier a complètement changé, à la fois pour ses raisons, disons, sociologiques, et puis pour des raisons structurelles, conjoncturelles, qui est l'arrivée du loup. C'est-à-dire que le loup est arrivé il y a maintenant bientôt 30 ans. En 1992, les premiers loups reviennent dans le massif du Mercantour. Et garder un troupeau quand il y a des loups, c'est complètement différent, ça a complètement métamorphosé le métier. Avant, les bêtes restaient pendant 3-4 mois, on les changeait de quartier, comme on dit, on les faisait monter dans la montagne au fur et à mesure de l'été. Mais voilà, aujourd'hui, elles sont parquées près de la cabane du berger. Le berger doit être très présent près de ses bêtes. Et ça a multiplié aussi le nombre de bergers, presque par 1,5-2. Donc voilà, cette sociologie et ces conditions, disons, du contexte du retour du loup ont fait que le métier de berger est devenu à la fois plus difficile, mais en même temps... c'est très passionnant de voir comment il s'est adapté à ce qu'on pourrait dire cette modernité du statut de berger.
J'ai de légères jambes, mes os sont de blé. J'ai de frêles chevilles qui me laissent aller. Je me dis, va tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, va tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, va, tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, t'as de belles épaules, tes épaules sont belles.
T'as de belles épaules, tes épaules sont belles.
Oh, t'as un beau dos.
T'as un beau dos.
Oh, ton dos est beau.
Oh, ton dos est beau.
Et t'as des fées aux fesses, des elfes aux phalanges.
T'as des fées aux fesses, des elfes aux phalanges.
Dérange,
va. Tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, va. Tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va. Tant que tu peux, tant que tu peux. Allez, va, va. Tant que tu peux, tant que tu peux. Allez.
T'as du thé dans les veines, de l'eau dans la bouche.
T'as du thé dans les veines, de l'eau dans la bouche.
Et tes joues fleurissent dès qu'on les touche.
Et tes joues fleurissent dès qu'on les touche.
Tes lèvres tentent.
Tes lèvres tentent.
Tentent le désir.
Tentent le désir.
Désir.
Désir. Va tant que tu peux. Tant que tu peux, allez, va, va, tant que tu peux, tant que tu peux, allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux, allez, va, va, tant que tu peux, tant que tu peux, allez.
Ta tête se pose, c'est la dernière vertèbre.
Ta tête se pose, c'est la dernière vertèbre.
Et ta tête se pose des problèmes d'algèbre.
Et ta tête se pose des problèmes d'algèbre.
Hèbre.
Hèbre.
Livre.
Livre.
Livre de vivre.
Livre de vivre.
Va,
tant que tu peux. Tant que tu peux, allez, va, va, tant que tu peux, tant que tu peux, allez, va, tant que tu peux, tant que tu peux, allez, va, va, tant que tu peux, tant que tu peux, allez,
allez dans les roses.
Une chanson de Berger et de Bergère, Dick and Garn, va. L'odeur de l'aube me saisit lors des premiers pas, ce parfum de terre éveillée et d'arbres qui reprennent leur vie. Puis le ciel commence à gémir doucement sous le soleil. À ce moment, il y a du lait dans le ciel et la journée s'annonce belle. Antoine de Bec, dans ma transhumance, emprunte les anciens sentiers de la transhumance. Vous avez aussi respecté, je veux dire, le calendrier. Est-ce que vous avez fait ce pèlerinage du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, comme cela se faisait à l'époque?
Alors, je l'ai fait à deux reprises, ce chemin. Une fois, la première fois, complètement solitaire et hors du temps de la transhumance, puisque je l'ai fait au mois d'août, donc c'est une aberration, si on veut, par rapport à la marche dans ces pays qui sont accablés de chaleur parfois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de grisailles à ce moment-là. Par ailleurs, je l'ai refait une deuxième fois au mois de mi-juin, enfin c'est ce moment où justement tout se passe. Et j'ai eu la chance de pouvoir la faire en partie avec un troupeau, ce qui est quelque chose qui est une expérience extrêmement puissante, hein, et qui m'a beaucoup impressionné. Vraiment, j'ai été saisi par cela. Alors, c'est quelque chose d'assez rare, parce qu'aujourd'hui, la transhumance donc est interdite, hein, dans la plupart des cas. Elle s'opère dans 98%, donc en bétaillère. Hein. Mais il y a quelques exceptions dans le département du Var, qui est un département dont la topographie fait que dans le même espace, il y a à la fois les plaines et les alpages. On peut donc, si on ne dépasse pas des limites départementales, si on arrive avant les vacances, avant l'arrivée des estivants, on peut avoir l'autorisation préfectorale de faire une transhumance sur une douzaine de jours. Et il y reste 8 éleveurs, 8 troupeaux, en fait, qui transhument sur 10-12 jours entre la base d'Urance et le col d'Alos. Donc, j'ai pu faire cette expérience avec le troupeau d'Alphonse Lopez.
Et c'est ce que vous racontez, voilà, dans votre carnet de route, édité chez Artaud, ma transhumance. Merci qui? Merci Arte, parce que s'il n'y avait pas Arte pour vous filmer...
Alors oui, ça, c'est vrai que cette expérience-là...
Arte, cette fameuse chaîne de télévision qui adore les moutons.
C'est vrai que là, c'est quelque chose que j'ai fait pour un film et un documentaire qui a été réalisé par Pascal Cardeillac, produit par Z. Ce que ça m'a apporté, ce tournage, à la fois cette expérience que j'avais jamais faite de, voilà, d'être à l'écran pendant un certain temps, voilà, pendant 52 minutes, on voit ma marche, mais vraiment profondément, c'est un ensemble de rencontres. C'est-à-dire que moi, quand je marche, généralement, j'aime bien la solitude, je marche tout seul, mais quand il faut que ce soit filmé, bon, bah, 52 minutes de solitude, c'est un petit peu long.
Ce que vous dites, Antoine de Bec, c'est que cette randonnée sur les traces des bergers d'autrefois, des moutons d'autrefois, à l'époque de la transhumance, vous dites que cette épreuve physique vous change.
Absolument. C'est vrai que quand on marche 3 semaines de suite sur un chemin assez dur, hein, physiquement, d'endurance en fait, voilà, où il faut repartir tous les matins après avoir marché 7-8 heures la veille.
Et des fois, sans finir son café, parce que les bêtes n'attendent pas.
Ça vous change, oui, oui. Ouais. Ça fait fondre, hein, on perd ces quelques kilos, disons, de graisse urbaine de tout citoyen parisien.
Et dans la tête?
Et dans la tête, évidemment. C'est-à-dire que marcher seul pendant 3 semaines, ça fait ressurgir énormément de choses. Ça, à la fois, ça agite et ça apaise, je dirais. On a beaucoup d'idées qui viennent et en même temps aussi beaucoup d'idées superflues qui s'évaporent, qui s'en vont d'elles-mêmes. Ça, c'est très très fort. Et puis, je pense que la proximité qui est quand même celle de la nature et des bêtes, hein, c'est quelque chose qui, voilà, sur une durée comme ça, c'est une expérience qui vous transforme, ça c'est sûr.
La communion avec la nature ne sont pas une phrase toute faite, ça existe.
Oui, ça existe, oui, ça existe parce que ça vous change, ça vous remet en cause, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de romantique, c'est quelque chose qui, voilà, il faut s'adapter à un rythme qui n'est pas le vôtre. Pour les moutons, c'est très simple, hein. Les moutons, ça commence avant l'heure de votre émission, hein. Ça part à 5h du matin. Voilà, il faut suivre ça. Et puis, un mouton, ça s'arrête, un troupeau de moutons, parce qu'un mouton marche pas seul, jamais. C'est vers 10-11 heures, ça s'arrête. Et puis, ça repart que vers 5-6 heures. Donc, comment est-ce que nous qui avons un calendrier totalement surchargé, différent, il faut s'adapter, il faut savoir prendre son temps tout d'un coup. Et puis à un moment, il faut repartir et ça repart moins vite que l'homme. Hein. Un mouton, ça marche moins vite que l'homme. Ça marche à 3,5 à peu près kilomètres heure. Et c'est difficile physiquement de marcher en deçà de son rythme naturel. Et puis, ça repart donc vers 5-6 heures, jusque vers 10-11 heures. Et puis, voilà. Et tout d'un coup, hop, ça s'arrête de nouveau. Et vous dormez peu, hein, finalement. À la fois, vous dormez beaucoup si vous savez faire la sieste. Ça aussi, ça s'apprend. Apprendre à tout d'un coup lâcher prise, se défaire de quelque chose pour, et là voilà, là c'est la nature qui guide tout ça, c'est pas vous, hein. Transhumer, c'est vraiment apprendre, c'est une leçon d'humilité, de modestie. On est au rythme des bêtes, on est au rythme de la nature, et puis il y a pas à transiger là-dessus. On peut absolument pas échapper à ça.
Alors vous racontez cette expérience de marcheur, Antoine Debecq, dans Ma Transhumance, et en même temps vous êtes historien, vous racontez aussi l'histoire de la transhumance avec quelques citations d'auteurs.
Giono, par exemple.
Giono, voilà, bien sûr.
Ça m'a permis de réviser mes classiques des auteurs provençaux, comme on les appelle, de façon souvent un peu condescendante. Giono, évidemment, transcende ça et de loin. Mais il y a tout un corpus que j'ai redécouvert. Marie Moron, Elias Fimbert, Henri Bosco.
Parlons de l'apaisement, puisque vous aviez parlé d'apaisement dans cette longue marche dans Ma Transhumance, Antoine Debecq. Cet apaisement qui nous vient dans L'amitié d'une montagne, écrivait Jean Giono. Vous l'avez ressenti ?
Oui, c'est vrai.
L'amitié d'une montagne,
oui. Alors, c'est une expérience que, là encore, c'est aussi pour ça que je marche et que j'ai voulu marcher sur ce chemin, c'est être fidèle à quelque chose qui remonte à l'enfance. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevé dans la proximité ou la fraternité, qu'on peut pas appeler autrement que l'amitié, d'une montagne particulière qui est le Vercors. Voilà, une sorte de connaissance intime. J'ai retrouvé à un moment mes journaux que je tenais quand j'avais 14-15 ans, et on voit vraiment que je parle de cette montagne à la fois parce que je la arpente, j'ai envie d'en décrire tous les détails, et en même temps aussi parce que c'est quelque chose de vivant, quoi, voilà, qui vous répond, qui vous guide, qui vous gronde, qui vous...
Alors, c'est sûr. Les images de votre enfance, et puis Antoine Debecq, vous êtes historien du cinéma, le cinéma ne pouvait pas vous lâcher dans cette expérience, les films de Luc Moulet qui reviennent comme une référence absolue.
C'est vrai, moi j'aime beaucoup Luc Moulet, qui est, je pense, un auteur alpin. Voilà, il a écrit d'ailleurs un livre de mémoire qui s'appelle Notre Alpin quotidien, hein, qui est un très très beau livre d'entretien comme ça sur sa vie, sur ses expériences et dans les expériences de Moulet, ce qui m'a beaucoup frappé. Alors c'est quelque chose que j'ai retrouvé justement en historien, c'est en travaillant à la Bibliothèque nationale dans les papiers, il y avait un fonds qui s'appelle le fonds Zelidja, qui est lié à une bourse qui était donnée à souvent à des très jeunes gens, adolescents, 15-16 ans, et qui avait un projet, comme on dit aujourd'hui. Et le projet de Moulet, on est là en 1950, hein, c'est de traverser les Alpes du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait sur les drails de la transhumance, pour aller à la recherche de la population qui, à ce moment-là, est en pleine déconfiture, c'est-à-dire on est en plein exode rural, la population de ces montagnes, souvent très reculées, très sauvages, est en train de quasi disparaître. Et Moulet, à 15 ans, comme ça, part à la recherche de cette population avec quelque chose qui ne l'abandonnera jamais dans son cinéma, c'est cette attention qu'il a au plus humble, je dirais même au plus fou, voilà, c'est là où d'ailleurs il découvre quelque chose auquel il s'identifie beaucoup, c'est le crétinisme, hein, le crétin des Alpes. Voilà, Moulet, c'est une sorte de comique crétin, on va dire, mais au sens noble du terme. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, beaucoup marqué. C'est une des grandes références de votre livre,
Ma transhumance, carnet de Routeau d'Antoine Debecq, c'est chez Artaud. Voilà un beau livre que je vous conseille avant de prendre la route des vacances. Merci Antoine Debecq d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Les petits matins continuent sur France Culture. Nous, on se retrouve demain.